Bonsoir à toutes et à tous. C'est vendredi, c'est le Club des idées du grain. Ce soir, réforme des institutions. Y a-t-il un bon équilibre des pouvoirs ? Ce ne sera ni un retour vers la 4ème République, rien qu'une petite dose de proportionnelle, ni une avancée vers la 6ème, pas de bouleversement majeur. La réforme des institutions présentée avant-hier en Conseil des ministres s'inscrit pleinement dans la continuité de la 5ème, dont on célébrera d'ailleurs le 60e anniversaire en octobre prochain. Un retour à l'esprit d'origine, selon les mots du Premier ministre. Alors, la plupart des modifications annoncées étaient déjà connues, puisque présentes dans le programme présidentiel d'Emmanuel Macron. Mesures consensuelles, comme la suppression de la Cour de justice de la République ou encore la fin du statut de membre de droit du Conseil constitutionnel pour les anciens chefs d'État. Mesures davantage contestées, comme la réduction du nombre d'élus ou encore la limitation du cumul des mandats dans le temps. Mais c'est la modification du processus de fabrication de la loi qui devrait être le plus débattu. Le gouvernement veut davantage encadrer le dépôt des amendements. Il veut également limiter la navette parlementaire pour rendre plus efficace le travail législatif. Cette quête d'efficacité, cela dit, ne risque-t-elle pas de déséquilibrer encore davantage les pouvoirs au profit de l'exécutif ? Réforme des institutions, y a-t-il un bon équilibre des pouvoirs ? C'est la question du soir en compagnie de deux des membres du club. Aude Lancelin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste pour Le Média, pour l'hebdomadaire Le 1, pour le site Là-bas si j'y suis. Vous allez discuter ce soir avec Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir.
Sylvain Bourmeau, c'est le site AOC Analyse Opinion Critique et c'est bien sûr la suite dans les idées tous les samedis à 12h45. Et puis l'invité du club cette semaine, Olivier Roucan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes politologue, constitutionnaliste, professeur à l'Institut supérieur de management public et politique. Et vous avez publié, je crois que c'était l'an dernier ou en 2016, En finir avec le président aux éditions François Bourin. Alors avant d'examiner les mesures présentées avant-hier en vue de la réforme des institutions, il faut peut-être d'abord se demander s'il y avait nécessité de les réformer. Est-ce qu'elles fonctionnent suffisamment mal pour que cette réforme ait été jugée nécessaire, Olivier Roucan ?
Si on part de l'idée qu'il y a une crise prolongée de la confiance politique, on peut toujours se dire qu'à un moment donné, il faut essayer de réviser les institutions pour essayer d'améliorer la perception que se font les citoyens des élus et pour surtout les inviter à revenir plus nombreux aux urnes, notamment. Ceci étant dit, le régime dysfonctionne-t-il pas vraiment ? Les pouvoirs fonctionnent, l'Assemblée vote les lois 6 à 9 mois au Parlement, c'est pas non plus c'est pas non plus une durée excessive pour la délibération des textes. L'exécutif publie des décrets et décide des politiques publiques. Et on voit bien que, particulièrement avec Emmanuel Macron, il y a une incarnation de ce pouvoir exécutif très fort. Donc, est-il nécessaire de réviser les institutions ? C'est, dans tous les cas, ce qui est présenté là ressemble plus à quelques ajustements qu'à une véritable réforme de fond substantielle qui permettrait, et je boucle la boucle, d'essayer d'améliorer la confiance politique.
Aude Lancelin.
Moi, je pense que cette réforme, une fois de plus, nous montre que le monde d'Emmanuel Macron est le vieux, non pas le nouveau monde, mais le vieux monde en pire. C'est-à-dire que on nous avait promis pendant la campagne quand même une forme de démocratisation, de dépoussiérage de la Ve République. Et on voit, comme vous le disiez très justement en préambule, que les institutions de celle-ci, son présidentialisme, sont absolument confortées. La baisse de 30% du nombre de députés, de représentants, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, est par exemple préoccupante. Surtout dans une assemblée dont on voit déjà depuis 2017, depuis les législatives, à quel point elle est faible, à quel point la capacité à organiser le débat au sein de celle-ci, à organiser le dissensus est inexistant.
Donc si réforme des institutions il devait y avoir, elle aurait dû être d'abord en direction d'un renforcement du pouvoir de l'Assemblée.
Absolument.
Et du Sénat d'ailleurs peut-être aussi.
Un renforcement des assemblées, absolument. Et puis aussi, on en parlera sans doute tout à l'heure, toutes les innovations qu'attendait, me semble-t-il, tout un électorat, notamment à gauche, sans aller forcément jusqu'à la 6ème République. Mais je rappelle quand même que aussi bien Jadot que Hamon que Mélenchon pendant la présidentielle portaient un projet de 6e République. Là, on en est absolument loin. Et je dirais même que j'ai souvent dit à ce micro que s'il y a une chose qu'on ne pouvait pas reprocher à Emmanuel Macron, hélas, c'est de ne pas tenir ses engagements de campagne. Et c'est vrai que beaucoup des réformes qui ont été passées, même en force, étaient annoncées pendant la campagne présidentielle. Celle-ci, elle n'était pas annoncée. D'ailleurs, François Bayrou l'a dit de façon très claire. Le ciment de son alliance d'avant le premier tour avec Emmanuel Macron, c'était une proportionnelle à 20 ou 25%. On est à 15%. Et donc, ça ne changera quasiment rien.
Il fallait les réformer, ces institutions, ou bien est-ce qu'on peut se dire quand même que 60 ans après, alors sachant qu'elle a déjà subi un certain nombre de modifications, hein, la constitution de la 5e République, Sylvain Bourmeau, est un cadre suffisamment pérenne, en tout cas pour être envisagé sur le long terme, et qu'il y avait juste besoin de quelques petits ajustements, parce qu'il y en a toujours besoin.
C'est pas qu'il fallait, c'est qu'il faudrait les réformer, ces institutions, et c'est pas cette réformette qui va changer quoi que ce soit. À peu près rien, au fond. C'est purement cosmétique et ça vise d'abord et avant tout à parfaire une logique qui est déjà à l'œuvre depuis bien longtemps. Et si on a lu le grand livre que Nicolas Grousselier a fait paraître l'an dernier, on voit bien que c'est une logique qui est à l'œuvre depuis la Première Guerre mondiale, en fait, qui a vu les pouvoirs exécutifs gagner sur le pouvoir législatif de façon faramineuse. Et ce que montre très bien Rousselier, c'est que, alors même qu'on est en situation de guerre pendant la Première Guerre mondiale, c'est l'Assemblée qui prend les décisions et donc un collectif, l'Assemblée nationale, peut parfaitement faire ce travail. Dans l'imaginaire commun aujourd'hui, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il y ait un homme responsable qui va appuyer sur je ne sais quel bouton. Ce sont les représentations qu'on a de la décision politique qui ne peut plus être collective. Mais... la démocratie représentative, parlementaire, elle peut produire autre chose. Donc, pour vous répondre, il faudrait les changer radicalement. Cette constitution, elle va effectivement avoir 60 ans à l'automne. Mais elle est née de quoi ? Elle est née d'un moment particulièrement grave dans l'histoire de France. On parle beaucoup de mai 68 en ce moment. On ne parle pas de mai 58. C'est peut-être une erreur, parce que je pense que ce qui s'est passé en mai 58 a été déterminant pour la manière dont on a organisé la politique par la suite dans notre pays. Cette constitution est née d'une sorte de coup d'État. Je ne suis pas le premier à le dire, mais on a eu tendance peut-être à l'oublier. Et le problème, ce n'est pas seulement que cette constitution est née d'un coup d'État et d'un coup de force, le général de Gaulle venant... clore cette séquence difficile pour la 4e République et de là naîtront les institutions de la 5e. C'est que, par la suite, toutes les réformes importantes qu'ont connues ces institutions, à commencer par l'élection au suffrage universel direct du président, changée en 1962, appliquée en 1965 pour la première fois, et puis le quinquennat, pour n'en citer que deux qui vont vraiment dans le même sens, ont considérablement renforcé les pouvoirs exécutifs, les pouvoirs du président de la République. Au point qu'on est dans des institutions qui sont totalement atypiques parmi l'ensemble des démocraties occidentales, qui concentrent entre les mains d'une seule personne des pouvoirs que l'on voit nulle part ailleurs. Contrairement, là encore, à ce que croient beaucoup de gens, le président des États-Unis a beaucoup moins de pouvoir que le président français. Donc, si vous voulez, moi, vous me posez la question, j'ai fait partie du groupe de 15 ou 20 personnes qui a créé la Convention pour la 6e République il y a bien longtemps, et qui avant ça a publié des textes avec Bastien François pour supprimer l'élection du président au suffrage universel direct. C'était en 1997. Donc vous voyez, j'ai pas changé d'avis, au contraire, je suis conforté dans cet avis en permanence, quotidiennement. Donc c'est pas Emmanuel Macron si on lit bien Le Monde d'il y a quelques jours, prend des poses de monarque dans son rôle de président, qui va changer les institutions vers davantage de démocratie parlementaire.
Bon, en même temps, ses prédécesseurs ne l'ont pas fait non plus. Il y a aussi la fonction qui finit aussi peut-être par absorber la volonté de réforme. C'est-à-dire, quand on devient président, on se rend compte que les institutions ne sont pas si mauvaises que ça, parce qu'elles permettent justement d'assurer à l'exécutif un pouvoir important. Est-ce que ça n'est pas aussi un frein pour la réforme de cette constitution de la 5e République, Olivier Roucan?
Oui, elles étaient dangereuses avant moi, elles le seront après. On connaît la formule à propos des institutions de François Mitterrand. Ceci étant dit, Le quinquennat a quand même... on fête les 60 ans de la 5e République, mais le quinquennat a changé le régime, quand, malgré tout. Parce que, notamment, les périodes de cohabitation étaient une forme de respiration et de partage du pouvoir. Il y avait eu également, pendant les septennats précédents, des périodes où les majorités parlementaires étaient fragilisées ou difficiles. On peut se rappeler de la période Michel Rocard, mais déjà, sous le général de Gaulle, la fin des années de Gaulle sont des années de fragilisation du président de la République, on l'a oublié. Donc, le quinquennat, en ramassant la durée du mandat présidentiel et en faisant suivre les législatives immédiatement, enlève de la légitimité politique à l'Assemblée nationale. Donc ce présidentialisme qui était déjà fort, là, domine outrageusement, j'allais presque dire. Et il est donc étonnant de voir que cette réforme vise encore, quelque part, à enlever du pouvoir, oui, à l'Assemblée nationale et au Sénat, et donc mécaniquement, sans le dire, à renforcer davantage encore l'exécutif, alors que Sylvain Bourmeau a rappelé l'historique qui fait que nous atteignons déjà un seuil très élevé, voire tout à fait inédit, si on se compare aux autres régimes.
Donc, même si après la réforme du quinquennat, Olivier Roucan, il y a quand même eu la révision constitutionnelle de 2008, qui est la dernière grande réforme, c'était il y a 10 ans, qui redonnait quand même un petit peu de pouvoir.
Qui, sur le papier, allait dans le bon sens.
Bah, le gouvernement n'avait plus la maîtrise de l'ordre du jour que 15 jours par mois, donc c'était partagé avec l'Assemblée.
Ça, c'est sur le papier, puisqu'il fait passer des projets de loi sous la forme de propositions, en se servant des députés de la majorité. Donc,
la présidence de la commission des finances qui est réservée à l'opposition, ça,
oui,
c'est pas sur
mais
le papier,
c'est le rapporteur qui est de la majorité qui a l'essentiel des pouvoirs dans cette commission. Bon, alors, mais ça allait dans le bon sens, même si vous voulez, ce sont des petites modifications et pas du tout une révolution à l'époque. Mais enfin, ça allait dans le bon sens, si on entend par bon sens. On conforte un pouvoir délibératif, parce que ce qui a été dit me semble tout à fait juste. Qu'est-ce que la démocratie ? Est-ce que c'est le pouvoir d'un seul, ou est-ce que c'est la capacité à fabriquer de la décision collectivement et également à se représenter le pouvoir comme étant un collectif ? Or là, les cultures politiques sont éminemment en France désormais présidentialiste, qui pose un problème.
Mais à partir du moment où justement il y a une élection présidentielle au suffrage universel, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie à défendre davantage de droits pour un Parlement qui de toute manière est un Parlement dont le pouvoir délibératif est assez réduit ?
Je pense qu'on peut avoir un équilibre. Je vais pas aussi loin que la 6e République, la Convention. Je pense qu'on peut tout à fait avoir une élection présidentielle au suffrage universel direct, à condition d'avoir un décalage entre le mandat de l'Assemblée et le mandat du président.
La 5e République, en soi, elle permettrait quand même d'avoir un meilleur équilibre des pouvoirs, de Lancelin ?
Non, moi je pense qu'elle a démontré désormais ses vices. Vous avez tout à fait raison. Dès lors qu'un homme seul cumule autant de pouvoir, l'abus fait partie du pouvoir. L'abus est l'essence même du pouvoir. Donc non, je pense que les pouvoirs effectivement doivent être rééquilibrés impérativement. Je pense que c'est ça qui va dans le sens de l'histoire, dans le sens du désir populaire, qui à cet égard n'a pas été respecté, qui a été absolument piétiné, parce que tout de même...
On ne sait pas très bien ce que c'était, le désir populaire par rapport aux institutions.
C'est vrai, mais toutes ces idées quand même avaient commencé à émerger. Effectivement, pas dans la masse, mais elle méritait d'être explorée. Ça faisait quand même aussi partie des promesses de la campagne, y compris chez Emmanuel Macron. Donc c'est quand même... Cela conforte le caractère autoritaire, hyper centralisé, étatiste... De ce régime.
L'argument qui est avancé, alors notamment sur la fabrication de la loi et sur le fait de dire on va réduire la navette parlementaire, par exemple, c'est d'aller vers davantage d'efficacité. Est-ce que l'efficacité, ça peut être justement un critère opportun pour penser une révision des institutions? L'efficacité en politique, c'est aussi peut-être ce que demandent les citoyens, Ed Lancelin.
Oui, mais enfin, ça, c'est toujours le même habillage verbal, si vous voulez, plus moderne, plus efficace, plus rapide, moins coûteux. On connaît, quelles que soient les mesures proposées, que ce soit celle de la SNCF ou de la Constitution ou quoi que ce soit, c'est le même discours, si vous voulez. Or, une démocratie n'est pas une entreprise. L'idée, c'est pas de gagner du temps. la délibération, aussi longue soit-elle, fait entièrement partie du processus d'élaboration d'une décision. Sinon, la démocratie n'est un leurre. Si la démocratie, c'est mettre un bulletin dans l'isoloir tous les 5 ans et retourner totalement impuissant à ses séries télé et à ses barbecues, il faut que les gens prennent conscience que ce n'est pas ça la démocratie. Ce n'est pas ça la démocratie. Les manifestations, l'activité syndicale, la discussion, tout ça fait partie pleinement de la démocratie au même titre que l'élection présidentielle.
Qui ne sont pas évoquées d'ailleurs dans la réforme des institutions. Enfin, le droit de grève est toujours un droit constitutionnel. Je crois que la question de la manifestation, on a fait une émission il n'y a pas très longtemps avec Daniel Tartakovsky qui nous expliquait que ça n'était pas dans le texte. Je regarde en même temps Olivier Rocamp pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Mais enfin, en tout cas, voilà, ça ne fait pas partie de la réforme, mais c'est vrai que c'est important pour l'exercice de la démocratie. Sylvain Bourmeau, qu'est-ce que ça change finalement de réduire le temps de la délibération puisque c'est ce qui devrait se passer si cette réforme va jusqu'au bout, hein, je disais, donc réduction de la navette parlementaire, encadrement du dépôt des amendements pour éviter cette inflation des amendements. Et qu'est-ce que ça change de réduire ce temps de délibération dans la mesure où vous faites tous le constat que de manière, cette délibération-là, elle est extrêmement réduite déjà du fait de l'organisation du régime?
Oui, parce que les pouvoirs, même quand on a essayé d'améliorer les choses, effectivement en 2008, en agissant sur la manière dont l'ordre du jour est déterminé, tout ça est contourné par des modes d'organisation des groupes parlementaires désormais qui posent problème. Je vais y revenir parce que je pense que derrière la question de la crise institutionnelle, il y a un problème beaucoup plus général qui renvoie à la crise de la politique professionnelle. Mais qu'est-ce que c'est que l'efficacité effectivement politique? Est-ce que c'est efficace à Westminster le mardi et le jeudi pour le Premier ministre de venir répondre aux questions du leader de l'opposition face à face? C'est pas de l'efficacité qu'on cherche. On cherche à avoir un dialogue, un débat, parfois très vif, politique, qui est l'incarnation même de la démocratie. Or, en France, non, on a vidé l'Assemblée nationale de ce type de débat, pratiquement, en tous les cas, les protagonistes principaux n'ont pas le droit d'y prendre part. Le président de la République, c'est la règle des institutions, ne met pas les pieds à l'Assemblée nationale. Donc le principal...
Il y a quand même une belle tribune médiatique pour les parlementaires.
Mais les parlementaires n'ont pas en face d'eux le principal responsable qui n'est pas là, du coup, pour rendre des comptes devant les parlementaires. Ce qui se passe dans une démocratie parlementaire classique. Je prenais l'exemple de la Grande-Bretagne, mais on pourrait en prendre d'autres, on pourrait prendre l'Allemagne, l'Italie, enfin l'Espagne, toutes les grandes démocraties parlementaires. Le cas des États-Unis est un peu différent, mais encore une fois, le président américain a beaucoup moins de pouvoir. Donc, si vous voulez, c'est pas de l'efficacité qui se produit là, dans ces parlements qui ne ressemblent pas aux nôtres. C'est ce qui s'est passé où, quand. J'en ai parlé l'autre jour déjà au club, quand on a vu un parlementaire écologiste belge apostropher le président français au Parlement européen. Là, on a eu un face-à-face. Personnellement, encore une fois, je le redis, j'ai trouvé ça plus intéressant que de voir le président apostrophé par des journalistes. Je trouve que c'est davantage le rôle de la démocratie. Je ne suis pas contre le fait que les journalistes le fassent, c'est important aussi. Mais je veux dire, on est dans un pays bizarre où les représentants de l'opposition ne peuvent pas, dans ce genre d'institution, apostropher le pouvoir. Ça crée un vide. Donc, on a ce gros problème. Un mot juste sur la crise plus profonde, parce que ce qu'on dit là, ce que j'ai dit moi, mais ce qu'on dit aussi les deux autres intervenants au débat aujourd'hui, on aurait pu le dire de la même façon il y a 15 ans, il y a 20 ans. Les modifications, d'une certaine façon, on a encore plus raison aujourd'hui parce qu'on est allé dans le même sens. Mais la situation a changé. Ce qui est venu s'ajouter à ces dysfonctionnements démocratiques, c'est une profonde crise de la professionnalisation politique, puisque les principaux partis politiques qui organisaient cette vie politique se sont effondrés. Et qu'on est dans une situation où a été construit en catastrophe le parti qui porte la majorité présidentielle, qui n'est pas équipé de la même façon que pouvait l'être les partis traditionnels avec des gens rompus à une certaine expérience, sans doute beaucoup trop d'expérience d'ailleurs et des mandats trop longs. Mais en tous les cas, je pense que bien davantage qu'une réforme institutionnelle, ce dont nous aurions besoin dans un premier temps, c'est d'une tentative de réforme, et elle n'est pas facile à faire, de l'encadrement de la vie politique professionnelle dans notre pays. Comment faire émerger dans cette vie politique des acteurs, des citoyens qui sont un peu différents, qui acceptent d'y venir pour un certain temps, mais pas y rester pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans.
Et comment les faire émerger? C'est peut-être justement inscrit dans le projet de réforme. La volonté de réduire le nombre d'élus, et surtout, parce que alors, réduire le nombre d'élus, vous allez me dire, ça ne va pas forcément renouveler beaucoup, même si ça peut accentuer une forme de professionnalisation, parce qu'il va falloir que les nouveaux députés, par exemple, soient davantage entourés de collaborateurs. Donc, d'un point de vue budgétaire, on ne sait pas si ça fera faire des économies, mais enfin, en tout cas, ça change peut-être, et même sans doute, l'approche de cette fonction qui est la fonction de parlementaire. Mais il y a surtout le non-cumul des mandats dans le temps. 3 mandats successifs identiques maximum. Est-ce que ça ne participe pas, ça ne devrait pas participer d'une forme de renouvellement, de rafraîchissement de la vie politique, Olivier Roucan?
Oui, c'est déjà entamé, on l'a vu en 2017, et il faut rappeler que le non-cumul, non pas dans le temps mais dans l'espace, a été voté en 2013 et appliqué dès 2017, et ça c'était finalement peut-être le plus important. Alors ensuite, le non-cumul dans le temps, bon, on voit que pour un certain nombre de communes, et elles sont nombreuses, de 9000 habitants ou moins, ce sera possible. On voit que quelqu'un qui a été député un temps pourra quand même ensuite exercer des mandats locaux et réciproquement. Donc si vous voulez, la portée effective de cette réforme sera peut-être moins que prévu. Mais dans tous les cas, il se passe quelque chose. Il se passe qu'a priori, donc, on aura une liste nationale élue à la proportionnelle, 61 députés, et le reste, mécaniquement, eh bien, des députés le seront dans des circonscriptions plus grandes. De la même manière, les sénateurs relèveront également de circonscriptions qui seront plus grandes, puisqu'il y aura beaucoup moins de sénateurs.
Donc, voilà, ça va passer de 348 à 244 sénateurs.
Et autour de 404 députés. Bon, donc ça signifie que le lien entre l'électeur et l'élu sera distendu. Et il y a quand même des dimensions spatiales dans la politique, ce qu'on appelle la proximité. Donc là, il y a une vraie question, si vous voulez, quand vous faites plusieurs réformes qui vont dans le même sens, celle d'éloigner l'élu de l'électeur, au bout d'un moment, on retombe sur la question qui est posée, la confiance politique et le renouvellement de la façon de faire de la politique. Est-ce que vous allez pouvoir véritablement régénérer la désignation de ces éligibles, puis éventuellement d'élus, en permettant davantage aux citoyens d'intervenir? Ce sera difficile parce que, ou alors ça voudra dire que les machines électorales qui vont utiliser ces dispositifs à bon escient, eh bien, se réformeront énormément. Hein. Donc, cet éloignement géographique, c'est aussi ensuite le lien au territoire, aux collectivités territoriales. Donc, on voit bien que c'est une réforme. Y a-t-il un loup, hein, pour poser une question là? Très forte, elle avantage un parti qui, pour l'instant, sans dire qu'il est hors sol, a très peu d'élus dans les collectivités. Bon, donc, sur le plan de la vitalité démocratique, cette réforme pourra avoir un effet qui serait contraire à ceux qui veulent redonner, encore une fois, de la légitimité au système. À force de parler d'efficacité de façon un peu technique et d'en haut, on va perdre en légitimité venue en quelque sorte du bas, pour simplifier un peu les choses.
Sylvain Bourmeau évoquait d'autres démocraties européennes pour un exercice de comparaison. S'agissant du nombre d'élus, justement, est-ce que la France compte beaucoup plus de parlementaires que n'en compte,
on en compte,
je sais pas, par exemple, la Grande-Bretagne, l'Allemagne?
Non. Et on sera en bas du tableau. Donc ça veut dire qu'on aura moins d'élus que la plupart des démocraties européennes.
Et sans parler des moyens alloués à ces parlementaires, il suffit de regarder les équipes des parlementaires aux États-Unis qui ont des collaborateurs très nombreux avec des budgets qui leur permettent d'exercer leur contrôle du pouvoir exécutif, ce dont sont dépourvus les parlementaires français.
Et ce qui est très étonnant aussi dans la réforme telle qu'elle est configurée à l'heure actuelle, c'est que le Sénat, comme l'Assemblée nationale, avait fait des propositions à la fin de l'été pour alimenter l'ingénierie de cette réforme. Et très peu figurent dans les textes qui circulent à l'heure actuelle et qui ont été repris donc par l'exécutif. Et notamment, sur le forme de l'ajustement de la procédure législative, parce qu'il est toujours utile de chercher à améliorer l'efficacité. Simplement, pour le Parlement, c'est pas l'objectif numéro un, l'efficacité. Il y avait des propositions qui étaient faites par les parlementaires qui allaient dans ce sens. Elles ont été pour l'instant rayées d'un trait de plume. Donc le débat va être intéressant à suivre parce que les parlementaires vont devoir se battre pour essayer de faire passer quelques points auxquels ils tiennent le plus, notamment tout ce qui est évaluation de l'action publique et tout ce qui est lien entre les députés ou les sénateurs et les citoyens, avec l'utilisation du numérique notamment. Parce que ça a été dit tout à l'heure par Aude, c'est quelque chose qui était très présent dans la campagne et là, ça semble pour l'instant disparaître totalement des textes.
Aude Lancin, est-ce qu'on ne prête pas aux institutions davantage finalement de pouvoir qu'elles n'en ont véritablement pour tenter de régler cette crise politique qui va au-delà justement de la crise institutionnelle et dont vous faites le constat ?
Mais malheureusement, moi j'ai longtemps, enfin plus exactement il y a très longtemps, je pensais ça et je crois que je me trompais absolument. J'étais très sceptique à la fin des années 90 sur les idées de 6e République. Maintenant, je pense que c'est un combat capital. Pourquoi est-ce que je pense ça ? Je pense que il s'agit de rendre aux gens le désir de s'emparer de la chose publique. Et ce désir-là, les institutions actuelles leur ont fait perdre. Parce que vous aviez raison en le disant tout à l'heure. Finalement, est-ce que les gens sont si critiques que ça par rapport à l'élection présidentielle ? On dit, certains sondages disent de façon récurrente que l'élection présidentielle est populaire.
C'est celle-là en tout cas où la participation est très importante.
Voilà,
par rapport aux
et j'ai encore dans l'oreille les commentaires en 2007, des journalistes saluant la merveilleuse vitalité démocratique qui avait fait se précipiter aux urnes les gens pour choisir entre le bouton royal et le bouton Sarkozy comme dans un jeu télévisé. Voilà. Seulement, il y a toute une éducation populaire à refaire, tout un travail sur soi-même, chacun de nous, c'est absolument transclasse à refaire à cet égard, pour comprendre que non, ça n'est pas ça la démocratie, que c'est, non, ce n'est pas avoir à choisir entre monsieur un tel et madame un tel, ça n'est pas ça la démocratie. Et pour le comprendre, par exemple, j'ai vu il y a quelques jours à peine, c'est disponible gratuitement sur internet, un documentaire qui s'appelle Démocratie au pluriel, qui est sur la chaîne YouTube d'Atagueule en accès libre, et qui montre ce que c'est au quotidien que la démocratie participative, que la démocratie directe. Alors on traverse aussi bien le Parlement islandais qu'un petit village de l'Est de la France, où le maire a décidé vraiment de pratiquer une démocratie, non pas démagogique, mais exigeante, c'est-à-dire avec une vraie assemblée populaire décidant de l'ordre du jour. Mais aussi Barcelone, bien sûr, l'expérience actuellement menée avec les maires issus du mouvement des indignés.
Podemos,
Ada Kaolo, qui actuellement sont en train d'inventer de nouvelles formes de participation populaire.
En parallèle des institutions déjà existantes, donc c'est bien aussi la preuve que finalement on peut régénérer cet exercice démocratique tout en conservant des institutions un peu plus larges, non ?
Juste une remarque, c'est, je pense, pour moi malheureusement la preuve un peu déprimante qu'en France, nous ne sommes plus à la pointe de l'innovation politique. C'est le moins qu'on puisse dire, que nous sommes revenus à un système extrêmement conservateur et autoritaire et finalement inquiétant.
Allez, j'ai peut-être un exemple d'innovation à vous soumettre, même si pour l'instant c'est pas encore très précis. Toujours dans cette réforme des institutions qui a été annoncée mercredi. Alors on passe sur la technique d'ailleurs, parce qu'il y a trois textes qui sont présentés. Il y en a un qui relève d'une loi constitutionnelle, un autre d'une loi organique, et un autre d'une loi ordinaire. Alors je sais plus dans lequel ça rentre, mais c'est la réforme du CESE, le Conseil économique, social et environnemental, qui aurait vocation à se transformer en assemblée citoyenne. Est-ce que vous avez quelques informations supplémentaires?
Là, ça suppose une révision de la Constitution, puisque le 16 est constitutionnalisé. C'est donc dans la loi constitutionnelle. Et ça ouvrirait la voie à une chambre, alors qui était dite citoyenne et qui deviendrait chambre de la société civile, autour de 150 personnes. Alors là, il faudra voir comment elles sont choisies. Et ensuite, il est question de saisir cette chambre systématiquement sur les textes à portée économique, sociale, environnementale. Et notamment de pouvoir le faire de la part des citoyens par pétition. Mais il faut rappeler que c'était déjà le cas pour le 16. Il pouvait déjà être saisi par pétition.
Encore faut-il le savoir, d'ailleurs.
Encore faut-il le savoir, c'est ce que j'allais dire. On parlait finalement d'évolution des cultures politiques et de l'approfondissement démocratique de nos cultures politiques qui ont été anesthésiées quelque part par ce présidentialisme et qui a été renforcé sous la Ve République du fait de l'évolution de l'opinion publique, du complexe de l'opinion publique et de la dynamique d'incarnation. Hein. Donc tout ceci fait qu'aujourd'hui, il est vrai qu'il faut retrouver des façons de faire, mais il ne faut pas négliger ce qui se passe notamment depuis 5 à 10 ans, qui est tenté par des députés, hein, y compris de l'Ancien Monde, qui avait commencé, et notamment de certains députés organiser des ateliers dans leur circonscription pour coproduire des amendements avec les citoyens qui venaient à ces réunions. Donc ça existe. Vous avez des sites internet qui maintenant drainent du monde derrière, comme Démocratie Ouverte ou d'autres, qui sont des laboratoires, qui travaillent avec des collectivités territoriales. Je dirais qu'un des points aveugles de cette réforme, si on avait voulu innover un peu, ça aurait été aussi de renforcer le lien entre ces institutions nationales et les collectivités territoriales. Parce que nous avons décentralisé énormément de responsabilités. Il ne serait pas, par exemple, mais ça n'a pas du tout été évoqué, il ne serait pas du tout, malsain que les régions, les départements puissent aussi proposer des textes aux assemblées. Notamment portant sur la décentralisation. Alors vous allez me dire, il y a le Sénat, mais on peut ouvrir le jeu. C'est l'idée d'ouvrir le jeu qui importe. Et là, pour répondre et terminer à votre question, il n'est pas dit, il faudra voir ce que ça donne, mais que la Chambre, donc Société Civile, réponde véritablement de ce point de vue aux attentes qui sont fortes. Il faudra voir.
Sylvain Bormeau.
Je trouve ça symptomatique des transformations qui ont eu lieu très récemment, au fond, cette idée de Chambre pour les citoyens. C'est prendre acte du fait que, au fond, il y aurait d'un côté la politique pour les professionnels de la politique et les citoyens, ils auraient leur assemblée, une troisième assemblée qui est pas vraiment dans le processus législatif d'ailleurs, qui est là pour que des débats aient lieu, des prises de parole se fassent. Et donc, ça veut dire quoi? Société civile, le concept a été profondément transformé, là où autrefois il désignait des gens qui appartenaient à un certain nombre de corps intermédiaires, que ce soit des syndicats, des associations, des ONG, la société civile, ça regroupait des choses déjà organisées. En fait, le mot société civile, plus récemment, et notamment dans l'usage qu'en ont eu les responsables de La République En Marche et dans leur casting, ça a visé à désigner ceux qui n'étaient pas des professionnels de la politique. Comme dans le militaire, il y a les militaires et le civil. Il y a les professionnels de la politique et les sociétés civiles. On en est là dans la démocratie française. On ne peut pas imaginer d'institution où d'un côté, il y aurait les vraies institutions pour les professionnels de la politique, et puis de l'autre, une assemblée pour les citoyens. Mais je croyais que c'était l'assemblée de tous les citoyens, ou plus exactement des élus par les citoyens.
Vous partagez les mêmes réserves que Sylvain Bormeau et de Lancelin à propos de cette assemblée citoyenne. Je ne sais pas comment elle s'appellera définitivement. En tout cas, a priori, ça sera plus
le CESE. Je ne connais pas les contours, donc je préfère...
Personne n'en connaît véritablement très précisément.
Moi non plus, c'est juste sur l'appellation.
Même si Olivier Rocand nous a un petit peu expliqué l'idée du contenu. Mais en tout cas, sur cette idée d'avoir un endroit où la société civile peut être mieux représenté. C'est vrai que finalement, on dit c'est l'Assemblée nationale.
Je partage, pour tout vous dire, entièrement ce que dit Sylvain sur cette affaire, à savoir que on a déjà une chambre à l'Assemblée nationale qui est remplie de DRH, de chefs d'entreprise, d'anciens présidents du bureau des élèves d'école de commerce, etc., qu'on nous présente comme l'émanation, la représentation du peuple français, ce qui est une blague. En fait, ça valide, si vous voulez, par exemple, les thèses de Jacques Rancière Rancière dans la haine de la démocratie, quand il dit que non, on ne vit pas actuellement, avec une argumentation évidemment historique et philosophique très précise, qu'on ne vit pas dans une démocratie mais dans une oligarchie, et que la représentation nationale française n'est pas une représentation du peuple mais une représentation des minorités à qui on autorise qui ont le droit de s'occuper des affaires du peuple, ce qui n'a strictement rien à voir. Et au contraire, qui cadenasse la représentation populaire. Si on ajoute à ça qu'aujourd'hui, en France, le Front National, contrairement à ce qu'on dit souvent, n'est pas le premier parti ouvrier de France, mais que c'est l'abstention qui est en réalité le premier choix de vote des classes populaires, et qui a une majorité extrêmement écrasante, tout ça est très inquiétant. Ça veut dire qu'il y a toute une partie de la population française, une partie très importante, les ouvriers, les employés, qui sont carrément éjectés de l'échange politique. ce qui nous réserve tout de même un avenir assez inquiétant.
Ce serait quoi, Lancelin, une assemblée véritablement représentative ? Ce serait une assemblée où statistiquement on pourrait retrouver la répartition, disons, socio-professionnelle, notamment les hommes, les femmes, en fonction de l'âge également, qui serait la plus fidèle possible de la société française ? Passe par là, la représentation fidèle des citoyens ?
Non, mais je pense qu'il faudrait à l'évidence réinjecter de la démocratie dans notre système. Alors ça peut prendre différentes formes, hein, sans aller jusqu'à la 6e République. Mais par exemple, la reconnaissance du vote blanc, ça c'est une chose importante. La capacité à la révocation possible d'élus ou l'abrogation de lois par un vote populaire, ce genre de référendum d'initiative populaire, toutes ces choses-là pourraient remettre les citoyens, les gens, les Français aux affaires, à leurs affaires et réinjecter de la démocratie dans ce pays.
Olivier Rocan.
Oui, le référendum qui fait peur au président lorsqu'ils ont en organisé un, c'est un outil qui, à condition qu'il soit bien encadré dans le cadre de l'état de droit, qui peut permettre de réveiller une opinion publique et une citoyenneté.
Peut-être va-t-il y être contraint d'ailleurs avec sa réforme là. Hein.
Oui, alors ce sera compliqué quand même, parce que si c'est, enfin bon, on va pas rentrer dans la technique, mais ça risque d'être compliqué. Mais des réformes, vous pouvez en faire aussi sur des politiques publiques pour réveiller la participation, l'intérêt qui est porté. Et finalement, les derniers référendums de ce point de vue fédérateur ont été les référendums sur l'Union européenne. Bon, mais au-delà du référendum. Parce qu'il y a un lien important à faire entre les assemblées et les électeurs en cours de mandat. Et ça, on en parle peu ou pas assez. Moi, je pense, par exemple, qu'on pourrait obliger les parlementaires à systématiquement, en cours de mandat, organiser des concertations pour essayer d'aiguillonner leur prise de position, ou dans tous les cas, leur implication dans des textes de loi à l'Assemblée ou au Sénat. Et je pense que le lien serait davantage maintenu entre les électeurs et leurs représentants, desquels ils se défient les plus en plus. Donc ça peut faire partie des outils. Et encore une fois, la démocratie, ce sont aussi les collectivités territoriales dont il va falloir s'occuper sur le plan institutionnel et qui, là, ne font pas partie du lot, sauf pour renforcer un peu leur pouvoir normatif, mais c'est de façon tout à fait marginale.
Et vous parliez justement tout à l'heure de décentralisation. Est-ce que vous avez l'impression qu'à travers cette réforme notamment, on assiste plutôt à un phénomène de recentralisation du pouvoir politique, Olivier Rocan ?
Alors, pas dans le cadre de cette réforme forcément, puisqu'il va y avoir une ouverture pour la Corse, pour l'ensemble des collectivités même, qui pourront adapter des textes de loi à leurs spécificités. Et ce qui semble une innovation, c'est que ça ne sera pas généralisable ensuite. Donc on aura de plus en plus une diversité de la gestion des territoires. Très bien. Mais ça, j'allais dire, c'est de la mécanique administrative et normative. Par contre, sur la démocratie locale, là, on n'a pas de proposition depuis 2004 dans ce pays. Et en plus, celles qui ont été faites en 2004 et qui sont assez, 2003-2004, qui étaient assez pour certaines osées, ne tournent pas. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas mises ou peu mises en œuvre. Hein, notamment le référendum local. Donc il va falloir, ce serait intéressant de s'occuper de ça aussi.
Sylvain Bourmont.
Ça passerait par la création, mais ça se décrète pas, de véritables espaces publics locaux. Et pour ça, il faudrait, par exemple, avoir des médias locaux un peu plus puissants et pluralistes dans ces espaces, dans ces régions, pour qu'il y ait un débat et pas juste un seul journal par région. C'est pas un problème spécifiquement français. On a le même aux États-Unis, par exemple. Mais il y a quand même des espaces publics locaux. J'insiste toujours sur la comparaison parce qu'il y a cette chose très agaçante, je crois partagée par beaucoup de citoyens en France, que après tout, la politique, c'est forcément telle qu'on la connaît. Il suffit de regarder un journal télévisé d'un autre pays pour peu qu'on en comprenne la langue. Alors je vous conseille d'aller en Suisse, par exemple, écouter un journal télévisé en français pour comprendre comment s'organise la politique suisse et voir que c'est possible d'organiser complètement autrement la politique et que ça n'a pas forcément à voir avec la taille du pays d'ailleurs, et que c'est possible dans un pays de plusieurs millions d'habitants de n'avoir que 6 personnes qui sont des professionnels de la politique et d'avoir des débats, des référendums, des enjeux, des élections sur des équipements importants à l'échelle des territoires divers, celui de la ville, celui de la région, du canton, etc. En tous les cas, une autre manière de faire de la politique. Elle a probablement des inconvénients, elle a des avantages, mais faire passer l'idée que il n'y a pas qu'une seule façon de faire de la politique institutionnellement parlant, la Ve République, ça nous ferait déjà beaucoup progresser.
Voilà, et d'autres façons, et pas un seul moment non plus, c'est-à-dire il n'y a pas que les élections hein, qui rythment la vie politique. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois d'avoir participé à cette discussion. Aude Lancelin, Sylvain Bourmeau et Olivier Roucan. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, En finir avec le président, c'était chez...
Bourin et en 2017.
Voilà, édition François Bourin, j'ai failli vous piéger. Merci à toute l'équipe du Grain, Antoine Dulster, Fanny Richer, Antoine Tricot, Isolde Sicard et Prune Saez, émission réalisée par Véronique Villa, avec à la prise de son Emmanuel Morse-Duncan.